Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h passées de 2 minutes, génération identitaire, une dissolution contestable, point d'interrogation, c'est la question que nous posons à nos deux invités dans un instant, Thaïs Descuffon et Stella Kamga, à tout de suite dans Les Incorrectibles.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio. Comme chaque semaine, nous donnons la parole à ceux qui ne manient pas le politiquement correct. Et c'est une fois encore le cas avec mes deux invités aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant une heure. C'est parti pour Les Incorrectibles sur Sud Radio.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
Alors, deux nouvelles invitées en ce dimanche pour s'interroger sur un sujet au cœur de l'actualité. Génération identitaire, une dissolution contestable, point d'interrogation. Voilà le thème que l'on va évoquer, c'est la polémique de cette semaine, bien sûr. On en parlera bien sûr avec mes deux invités. On parlera aussi de l'actualité à Trappes, la question des zones sans contrôle d'identité, puis la loi confortant les principes républicains. Alors, pour débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir donc de recevoir deux jeunes femmes, toutes deux encore étudiantes et militantes engagées. L'une étudie la gestion à Paris, est aussi blogueuse. Elle se définit comme, je cite, une citoyenne contre la désinformation. Elle s'est fait connaître cet été à l'occasion du mouvement Black Lives Matter, dont elle dénonce l'hypocrisie. D'origine camerounaise et résidente en France depuis 3 ans, elle s'érige contre la culture de la victimisation et du misérabilisme que pratiquent, selon elle, certains Français issus d'immigration. Elle se déclare, comme on peut le lire sur son profil Twitter, je cite, amoureuse et reconnaissante de la France, de la personne qu'elle me permet de devenir et considère n'avoir ici que des devoirs. Stella Kamga, bonjour.
Bonjour Eric.
Et face à vous, la porte-parole de Génération Identitaire qui poursuit ses études de langues étrangères à Toulouse tout en menant de front ses actions militantes pour, je cite, incarner un changement dans notre pays et incarner la majorité silencieuse. Elle s'est fait connaître elle aussi cet été lors de la manif à l'appel du comité Adama et fait depuis figure d'égérie du mouvement. Thaïs Descuffon, bonjour.
Bonjour Eric.
Merci beaucoup, donc je le disais à toutes les deux, d'avoir accepté de débattre, plutôt de discuter, on l'espère, de manière courtoise, ensemble, puisque si vous aurez peut-être quelques sujets d'accord, nul ne peut peut-être être étonné de cela, on pense qu'il va y avoir pas mal de sujets de désaccord. En tout cas, vous incarnez une certaine vision de la jeunesse et de la France d'aujourd'hui pour donc débattre de cette question sur ce thème, donc génération identitaire, une dissolution contestable. Alors, première question, pour quelles raisons, rapidement, vous avez accepté de débattre l'une et l'autre, Stella, pour commencer?
J'ai estimé d'ailleurs, aux dernières interventions de Thaïs sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'il n'y avait pas eu de débat. Il y avait eu des camps qui étaient ligués contre elle.
Et des invectives.
Voilà, et des invectives. À la fin de l'émission, à chaque fois, moi, je n'ai rien retenu du débat, en fait. Il y avait eu une espèce de bruit autour. Il y avait des gens qui parlaient, qui s'exprimaient, mais finalement, on n'entendait rien. Il y avait plus des agressions sur sa personne, des leçons de morale à lui donner sur ce qu'elle doit faire ou pas de sa jeunesse. Et tout. Mais je pense que personne sur ce plateau-là n'étaient ses parents, donc ils n'ont pas à se mêler de sa vie privée. Et voilà, je préfère avoir un débat sur les idées, idéologie contre idéologie, argument contre argument, et non pas des débats avec des attaques sous la ceinture.
Et vous partagez ce point de vue, j'espère, Thaïs Descuffon ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était pas un débat, hein. C'était du lynchage médiatique. Et après, je savais où je mettais les pieds. Hein. Effectivement, je me doutais qu'il y aurait une certaine animosité sur le plateau. Néanmoins, je pense que, en raison de l'audience de cette émission, il était important aussi de porter nos couleurs chez Cyril Hanouna. Après, pourquoi j'ai accepté ce débat ? Tout simplement parce que moi, je suis prête à défendre Génération Identitaire en tant que porte-parole jusqu'au bout. Donc, j'accepte toutes les invitations qui me sont en fait.
En tout cas, vous lui reconnaissez une légitimité d'être ici parce qu'elle n'est pas française et elle est là que depuis 3 ans. Donc, si vous étiez au pouvoir, vous la renvoyez dans son pays ou pas ?
Oh, je suis très, très intéressée et très, très contente de débattre avec Stella.
Non, mais sur cette question précisément.
Oui,
parce que vous
sûr.
Êtes pour la remigration. Donc, ça veut dire que Stella, aujourd'hui, vous seriez au pouvoir. Vous la renvoyez dans son pays ?
En l'occurrence, la remigration, pour préciser, c'est donc le retour dans leur pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents en France et en Europe. Mais déjà, c'est une majorité. Moi, je ne nie pas du tout. Je pense que Stella a bien montré qu'elle était, elle était patriote, qu'elle était engagée pour la France et qu'elle respectait ses valeurs et sa culture. Ça, je suis tout à fait d'accord pour le reconnaître. Tout comme je pense que beaucoup de Français, enfin, personne ne nie le fait que Jean Messia, par exemple, soit parfaitement assimilé à la France.
Oh, mais lui, il est français.
Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Il a la nationalité française. Cependant, est-ce que on peut dire pour autant
il est pas
que...
immigré, Jean Messia.
Il est d'origine égyptienne.
Ah ouais, mais aujourd'hui, il est français.
Oui, non, mais tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que d'origine, voilà, il est tout de même d'origine immigrée. Et donc, je ne nie absolument pas les parcours individuels de personnes qui peuvent s'assimiler à la France. Néanmoins, même si, voilà, je crois en l'assimilation individuelle en tant que démarche, mais je ne crois pas en une politique d'assimilation. Je pense que ça, ce n'est pas possible parce qu'on assimile des individus et pas des peuples. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, toutes ces tensions qui éclatent montrent bien que, voilà, une politique d'assimilation, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous prenons effectivement la remigration. Mais voilà, encore une fois, ce sont des parcours individuels que je ne pense pas.
Donc il y aurait quelques exceptions.
On ne doit pas les prendre pour une généralité, mais ils existent et vous en êtes la preuve.
Bon, alors on va rappeler les faits, si vous le voulez bien. Donc pour les auditeurs qui viendraient de prendre cette émission en cours de route, donc suite aux opérations anti-migrants menées le 19 janvier dernier par des militants de ce mouvement, donc Génération Identitaire, c'était au col du Portillon, à la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'était dit scandalisé, vous a notifié donc à votre association, c'était le samedi 13 février, si je ne me trompe pas, donc sa dissolution, une dissolution qui doit être effective dès ce mercredi, c'est ça ? Mercredi de cette semaine, si jamais elle est confirmée. Vous avez encore des arguments que vous pouvez lui produire, mais pensez-vous échapper à cette dissolution ?
Ah, si c'est le droit qui est jugé dans cette affaire, nous gagnerons. Puisque juridiquement parlant, ils n'ont pas les outils pour nous dissoudre. Les deux chefs d'accusation qui nous sont reprochés, c'est la constitution de milice d'une part et l'incitation à la haine, sachant que pour la constitution de milice, on avait déjà eu un procès pour notre opération menée dans les Alpes en 2018, où nous avions été relaxés par la justice en décembre dernier. Donc la justice l'a déjà tranché. Et en ce qui concerne l'incitation à la haine, idem, on n'a jamais été condamné et nos propos sont toujours restés dans le cadre de la loi et dans le cadre de la liberté d'expression. Donc encore une fois, voilà, ces deux chefs d'accusation, ils ne tiennent pas debout. Et donc, nous, on dénonce évidemment une volonté idéologique et politique de la part de Gérald Darmanin, qui, en fait, ça rentre dans son agenda politique. Et également, au-delà de notre dissolution, ça sert aussi à criminaliser, en fait, le discours anti-immigration et tout ce qui est l'opposition à l'immigration massive. Et donc, en cela, nous pensons que c'est une atteinte grave à la liberté d'expression. Après, voilà, si il existe parfois une justice politique en France, nous ne sommes pas exempts de dissolution pour autant.
Alors on va faire réagir Stella, juste, est-ce que vous pouvez nous préciser exactement la teneur de ces opérations anti-migrants comme vous les citiez ?
Alors très simplement, je vais vous raconter notre dernière opération dans les Pyrénées puisque c'est la plus récente. Nous nous sommes rendus une trentaine de militants à la frontière franco-espagnole.
Vous y avez participé vous personnellement ?
Tout à fait, j'y étais moi-même et nous sommes rendus au col du Portillon. Pourquoi exactement au col du Portillon ? Parce que le préfet de Haute-Garonne, Étienne Guillot, avait déclaré qu'il fermait temporairement ce point de passage en raison d'une menace terroriste et migratoire élevé. Donc c'était lui-même qui l'avait dit tel quel. Et donc nous sommes rendus sur place et nous sommes déjà venus nous rendre compte de l'ampleur de la menace et éventuellement épauler les forces de l'ordre. Mais nous, ce que nous souhaitions faire par le biais d'une action pacifique et purement symbolique, c'était de mettre en lumière ce problème à la frontière et de rappeler qu'effectivement le terrorisme islamiste et l'immigration sont liés, parce que l'immigration est devenue la voie privilégiée du terrorisme islamiste, quand on se souvient que le dernier attentat de Nice perpétré en octobre dernier était le fait d'un migrant clandestin qui était entré en France illégalement en passant par Lampedusa. Et lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait strictement aucune force de police sur place et qu'on pouvait tout à fait traverser à pied sans aucun contrôle quand on est un migrant, ce qui révèle bien l'incapacité totale de notre gouvernement à gérer nos frontières et la sécurité des Français. Et encore une fois, nous aurions fait, c'est-à-dire que si jamais nous en avions croisé des migrants clandestins,
voilà,
nous aurions,
qu'est-ce que vous auriez fait ?
Eh bien, nous aurions tout simplement contacté les forces de l'ordre, dont c'est le travail. Et donc, en tant que citoyen français,
vous connaissez ça, hein, que
oui.
Vous ne faites pas partie des forces
Absolument
de l'ordre.
Pas.
Votre organisation n'a pas le pouvoir légal de décider de ce genre d'action. Enfin, en tout cas, s'il y avait eu des migrants à interpeller, vous en êtes consciente ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, ce que nous faisions simplement, c'était... Alors, nous avons un peu sillonné la zone, mais en tant que citoyens français, si nous sommes témoins d'un acte illégal commis sur notre sol, nous sommes dans notre droit d'appeler les forces de l'ordre. Et à ce moment-là, c'est elles qui auraient procédé à leur interpellation, éventuellement à leur expulsion. Nous, simplement, ce que nous aurions fait, ça aurait été de les contacter.
Alors Stella Kamga, avant toute chose pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, comment vous êtes arrivée en France et pour quelles raisons ?
Alors je m'appelle Stella Kamga, j'ai 26 ans et oui je suis étudiante, notamment à l'ICEP de Lyon également, chez Marion Maréchal en formation continue.
Oui parce que aussi. Beaucoup de gens nous ont laissé penser que sur les réseaux vous étiez d'accord toutes les deux, je précise que vous n'êtes pas forcément d'accord.
Exactement.
Parce que j'ai parlé avec l'une et l'autre avant et donc c'était intéressant de vous faire agir, mais
oui,
vous reconnaissez que vous êtes patriote tout en n'étant pas encore française, vous allez demander je pense d'être naturalisée je suppose.
Oui.
Voilà, et aujourd'hui, donc, vous êtes étudiante donc, à l'ICEP, et par ailleurs, donc, dites-nous, oui.
Alors, Effectivement, moi j'ai un point de vue malheureusement qu'on ne voit pas, on ne voit pas beaucoup dans les débats. Malheureusement, à la dernière intervention que j'ai eue dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe Rossi, j'avais expliqué notamment que la procédure de Gérald Darmanin à vouloir dissoudre Génération Identitaire n'était pas la meilleure façon de procéder. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un groupe de jeunes qui ont des convictions, qui sont motivés par leurs valeurs. Si on n'est pas d'accord avec les valeurs, vaudrait mieux en débattre et non en chercher forcément à les dissoudre. Dissoudre, pour moi, veut dire fermez-vous, fermez vos gueules, vous n'avez pas le droit d'exister, vous n'avez pas le droit de parler. Or, malheureusement, ils oublient très vite que nous sommes en démocratie et que même si on ne partage pas tous les mêmes idées, on a le droit de s'exprimer.
Concernant non, mais là, on parle des actions. Oui, vous les approuvez exactement. Ou les condamnez, Stella? Alors,
non, ça dépend. Ça dépend des actions. Moi, par exemple, les actions, par exemple, je suis à la mosquée, je comprends cette action-là pour la simple et unique raison que récemment encore à Lille, on détruisait une église. Alors que malheureusement, il y a
donc
des mosquées.
Donc dites-nous, mosquée, vous voulez
oui,
dire quoi?
Oui, ils ont occupé le toit d'une mosquée, il me semble.
L'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers.
Exactement.
En 2012.
Oui. Donc il y a des actions que
mais ça, c'est illégal.
Oui, je suis toute action qui vise à faire valoir sa parole n'est pas forcément une action, dans le sens de la droiture. On est dans la désobéissance civile et non pas dans un acte criminel. C'est pas pareil. Faut faire attention aux mots. Et effectivement, tout ça n'est que sémantique. Et je ne suis pas d'accord, par exemple, quand ils vont dans le col des Pyrénées pour empêcher les migrants de passer. Effectivement, il y a une situation concernant qui est très alarmante sur la situation de l'immigration en France. Et on a l'impression effectivement que les politiques semblent fermer les yeux. Mais malheureusement, nous sommes en situation divers. Il y a des personnes qui vont voir, par exemple, leur doudoune bleue, qui auront peur et qui ne vont pas traverser le col en question et qui peuvent crever dans le froid. Moi, c'est plus ce côté humain que je regarde et pas le côté est-ce qu'ils doivent traverser ou pas. C'est d'abord le côté humain. Quand ils partent de chez eux, quand quelqu'un part de chez lui le matin pour traverser la mer, pour subir les climats, les agressions, la famine, le viol dans les pays arabes pour arriver en Europe, c'est pas pur plaisir en réalité. Et personne n'a eu le choix à la naissance de naître africain, français, arabe ou quoi que ce soit. Tout ça ne relève qu'un ce n'est qu'un concours de circonstances. On n'a pas choisi, vous n'avez pas choisi d'être blonde aux yeux bleus, j'adore, et je n'ai pas choisi d'être noire avec une perruque. C'est pour le côté humour, je sais. Mais on se retrouve là. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va traiter les gens,
Non, mais vous pouvez quand même comprendre que des gens, justement, comme
je
le comprends. Qui sont pas encore français, puissent être inquiets à l'idée
mais
que
ils ont raison d'être
des
inquiets.
Idées comme celle-ci soient
oui,
exposées.
Ils ont raison d'être inquiets, d'autant plus que, voilà, ils se retrouvent en France et, la perception de l'amour de la France dépend de la personne qu'on a en face. Soit on a une personne qui t'accueille en France et qui te dit rentre chez toi, soit on a une personne qui te dit la France, on la présente comme ça. Je suis pas
bah
en train de dire.
Là, on vous dit pas trop.
Oui, exactement.
Bienvenue.
Je ne suis pas en train de dire. Loin de là que la France doit accueillir la misère du monde, là n'est pas la question. Et d'ailleurs, même, je pense que je me suis insurgée assez et je continue de le faire sur les réseaux sociaux pour expliquer aux immigrés que quand ils arrivent ici, la moindre des choses, c'est de faire profil bas et de ne justement pas avoir affaire à chaque fois à la police ou à se retrouver, comme malheureusement ce qui s'est passé, dont on va parler tout à l'heure, à Pau. Quand l'immigration brille plus par les agressions, les vols, les viols, les cambriolages et tout ce qui met la société, l'ordre public en péril, ils ont raison. Ils ne font que donner raison à Génération Identitaire. Et comment vous voulez qu'on les en veuille? Mais en tout cas, moi, je ne peux pas les en vouloir. Ils ont raison. C'est pour ça que je dis, je ne soutiens pas Génération Identitaire, mais je comprends les motivations de Génération Identitaire. Voilà la nuance qu'il y a entre ma façon de penser et ceux qui veulent à tout prix éteindre leur débat. Je ne soutiens pas Génération Identitaire, je ne suis pas membre de leur groupe, mais je comprends leur motivation. Si même moi, dans mon pays, je me retrouve à avoir des personnes qui viennent de je ne sais où pour braquer, violer, poignarder et faire tout ce qu'il y a de mauvais pour mettre l'ordre public en péril. Même moi, j'aurais tendance à vous la dire, mais si c'est comme ça que venez vous comporter, on veut pas de vous chez moi. Donc, je comprends leurs idées, je comprends leur motivation, mais encore une fois, je suis universaliste. Moi, je prône la vie humaine avant tout. Et voilà, si des gens arrivent ici et qui se comportent mal, je pense que le problème même, l'essence même de l'immigration, comment il faut gérer ça, je pense que ça commence avec les gouvernements. C'est pas tant avec les immigrés qui partent de je ne sais où en réalité en quête de repères.
Alors Thaïs Descufon, votre mouvement organisé hier une grande manifestation à Paris, vous étiez 1500 selon la police, 3000 selon votre organisation, donc contre cette mesure de dissolution, est-ce que vous avez été satisfaite de cette mobilisation?
Oui, tout à fait, je pense que c'était un succès, sachant que déjà nous sommes censurés de tous les réseaux sociaux mainstream. Et donc,
oui,
nous avons...
là aussi, vous avez été supprimé de tous les réseaux sociaux, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait, exactement. On voit bien
et
les
à quel
limites.
Titre
au titre que nous étions membres de Génération Identitaire. Il y a notamment, en l'occurrence pour Twitter, c'était une ONG américaine qui avait fait pression sur Twitter pour censurer tous les comptes des militants de Génération Identitaire. Donc le fait est qu'effectivement, nous considérons que c'est un succès, sachant que malgré cette censure globale, on est arrivé à mobiliser quand même 3000 personnes dans la rue.
Et quelques personnalités, on a vu Florian Philippot, Jean Messia, étonnamment on n'a pas vu Marine Le Pen, ça vous a surpris ?
Alors, il faut savoir que le Rassemblement national...
Vous avez défendu quand même sur les réseaux.
Tout à fait. Elle avait dénoncé cette attaque grave à la liberté d'expression.
Comme Mario Maréchal, d'ailleurs.
Tout à fait. Et le Rassemblement national avait d'ailleurs sorti un communiqué officiel qui dénonçait également cela. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce matin, Marine Le Pen a encore fait un tweet de soutien, en tout cas Génération Identitaire, vis-à-vis de cette attaque à la liberté d'expression. Donc, je pense que chacun aussi a ses obligations. En tout cas, il a été lu également en tribune quelques mots de élus en vue du Rassemblement National qui n'avaient pas pu se joindre à nous mais qui avaient tenu à rédiger un mot de soutien que nous aurions lu à ce moment-là.
Alors vous avez lancé également une pétition en ligne pour dénoncer, je vous cite, la mascarade politicienne de ce gouvernement qui veut dissoudre une association. Ce sont vos mots parfaitement légaux pour dissimuler ses échecs dans tous les domaines. Elle aurait déjà récolté plus de 32 000 signatures, donc je le disais, plusieurs membres du RN, Marine Le Pen, Robert Ménard, l'avocat Gilles-William Golnadel, qui est votre avocat, je crois, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Philippe de Villiers. Combien de signatures souhaitez-vous atteindre et qu'est-ce qui pourrait faire que votre association ne soit pas dissoute ?
Un chiffre à atteindre, disons, le plus possible, hein, il n'y a pas de limite. Il me semble qu'à ce jour, effectivement, la pétition a recueilli plus de 35 000 signatures, il me semble, ce qui est déjà un chiffre assez conséquent. Mais même au-delà d'une pétition, en fait, tous les sondages montrent que, en fait, la majorité des Français partagent les constats que dresse Génération Identitaire. Et nous, ce que nous souhaiterions, en fait, c'est que le gouvernement, au lieu de s'attarder à dissoudre un mouvement de jeunesse pacifique de l'ensemble d'alerte s'attarde plutôt à s'occuper de ce qui concerne les Français, à savoir les problèmes d'immigration et d'islamisation. Et même quand j'ai pu passer dans les à Balance ton poste ou à Touche pas à mon poste, à chaque fois les sondages de fin révélaient que c'était le premier 68% des Français étaient contre en tout cas des téléspectateurs qui regardaient l'émission étaient contre la dissolution de Génération Identitaire. Et pareil à la deuxième émission, 63% ne comprenaient pas cette dissolution. Donc oui, nous avons de nombreux soutiens et je pense que c'est important de montrer que Génération Identitaire n'est pas seul et que, voilà, au-delà de notre mouvement, ce sont toutes nos idées qui sont attaquées.
Pardon Thaïs Descufon de faire justement cette parenthèse, mais c'est vrai, quand on vous voit, vous êtes charmante, vous présentez bien, mais vous avez conscience qu'il y a d'autres personnalités au sein de vos mouvements qui peuvent paraître plus radicaux et qui peuvent faire peur, en effet, et qui peuvent vouloir aller à l'affrontement. Notamment, hier, il y avait une autre manifestation. Cette fois, c'était une manifestation Antifa, hein, puisqu'elle n'était pas loin, d'ailleurs, de votre manifestation. D'ailleurs, Jérôme Rodriguez, le Gilet jaune, était présent. Ce rassemblement, d'ailleurs, n'avait pas été autorisé par le préfet l'Allemand, à qui certains reprochent d'avoir choisi son camp. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens qui, peut-être de bonne foi aussi, vous voient comme des extrémistes extrêmement radicaux.
Ce que je voudrais leur dire, c'est que nous dénonçons des réalités. Nous dénonçons le fait que en France, les Français ne soient plus en sécurité chez eux, que beaucoup de Français expérimentent de plus en plus le racisme anti-blanc ou que l'islamisation...
Vous croyez au racisme anti-blanc ?
Tout à fait. Bien sûr, pour avoir peut-être moi-même été déjà traité de sale blanche dans la rue, ou il me semble même que Cyril Hanouna avait donné la parole à une femme qu'il avait également expérimenté, qu'on lui avait jeté des pierres dans une banlieue, il me semble. Donc oui, évidemment, le racisme anti-blanc ça existe. Il y avait une enquête de chercheurs de l'INED en 2016 qui avait révélé que 10 millions de Français considéraient que le racisme anti-blanc existait ou l'avaient expérimenté. Donc oui, je pense que ce serait... c'est un sujet qui est encore tabou dans les médias. Les médias n'osent pas en parler, mais c'est une réalité qui ne fait qu'augmenter. Donc nous, en fait, tout simplement, ce que nous faisons, c'est que nous décrivons une réalité.
Alors, mais pourquoi vous n'allez pas au Rassemblement National, par exemple? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire cette association? Parce que finalement, ce que vous dites là, excusez-moi, de manière assez modérée, là, sur ce plateau, ressemble étrangement à ce que pourrait dire Jean Messia, qu'on avait aussi sur ce plateau il y a quelque temps.
Déjà, à chaque fois, c'est vrai qu'on me pose cette question.
Bah oui, pourquoi c'est que vous êtes plus à droite,
la droite. Mais en fait, pourquoi ne pas demander ça dans ces cas-là à Greenpeace, demander à Greenpeace de monter un parti écologique? Je pense qu'il y a des partis politiques.
Je vous le demande, pourquoi vous n'êtes pas au Rassemblement National? Vous l'interdit?
Parce que, en tout cas, moi, je me retrouve davantage dans la ligne que défend Génération Identitaire, dans son mode d'action. C'est ce qui m'a attiré également, ce qui m'a poussé à m'engager, c'était justement ces actions spectaculaires qui me donnaient envie d'y participer.
Ah, donc vous reconnaissez qu'il y a des actions quand même spectaculaires, c'est
oui,
ça?
Oui, bien sûr, des actions spectaculaires. Elles ont pour but d'avoir une attention médiatique et donc des retombées politiques. Et c'est pour ça également qu'on a une certaine communication, etc., autour de ces opérations, évidemment. Mais ça, c'est le mode de l'agite propre, de la panique médiatique, c'est le même mode d'action que utilise Greenpeace ou d'autres ONG et associations. Donc nous faisons ni plus ni moins que du Greenpeace de droite en quelque sorte. Et donc, vous avez les partis politiques qui occupent le terrain électoral. Nous, on occupe le terrain activiste. C'est deux champs qui peuvent être
médiatique,
complémentaires, mais qui sont très différents en fait. Et donc voilà, moi je me sens davantage dans l'activisme politique.
Et vous considérez qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures, en parlant de Gérald Darmanin, vous considérez laxiste envers certains mouvements d'extrême gauche et des mouvements identitaires comme la Ligue de Défense Noire-Africaine, et intransigeant vis-à-vis donc d'organisations comme la vôtre, c'est ça?
Moi, ce que je dénonce surtout, c'est que Gérald Darmanin, voilà, il s'attarde à dissoudre Génération Identitaire tout simplement parce que le discours que nous tenons lui déplaît et que
et
nous
pourquoi,
pointons
pourquoi,
du doigt.
Finalement, pourquoi
et
ça le dérange tant, à votre
parce
avis?
Que déjà, nous, en fait, nous pointons du doigt son incompétence à lui, et donc, en fait, ce n'est pas un motif suffisant pour nous dissoudre, le fait qu'il ne nous apprécie pas, et le fait est également qu'en fait, il rentre dans une logique en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, il a fait semblant de donner des gages à la droite en dissolvant le CCIF et Baraka City, mais bon, Génération Identitaire ne peut pas quand même être mis sur le même plan que deux associations islamistes qui ont de réels liens avérés avec le terrorisme, alors que nous sommes un mouvement de lanceurs d'alerte pacifique, et donc, il va ensuite donner des gages à la gauche en dissolvant Génération Identitaire, et donc en disant, voyez, je tape sur tout le monde des deux côtés et donc vous allez pouvoir avaler ma loi séparatisme avec mes trois mesurettes contre l'islamisme.
Mais vous êtes d'accord, vous le disiez donc de Stella, qu'elle, elle posait aucun problème parce que c'était un cas individuel, mais on peut pas faire du cas particulier, donc faut bien aussi, à un moment donné, on peut pas être au cas par cas, donc une personne comme Stella, si vous la connaissiez pas, théoriquement, selon vous, elle pourrait pas être forcément française ou elle pourrait avoir les mêmes droits que vous?
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à toutes ces personnes...
En tant qu'immigrée non française, qui vient depuis 3 ans seulement sur le territoire et qui est issue du Cameroun...
La question n'est pas de me demander à moi, de façon arbitraire, de décider qui n'a pas sa place en France. Ce qu'il faut demander à ces personnes-là, en réalité, c'est est-ce que ça vous poserait problème de vivre dans une France qui lutte activement contre l'immigration massive, qui lutte contre l'islamisation, qui est fière de son identité, fière de son histoire? Et à ce moment-là, si ces personnes-là sont d'accord avec cette question, eh bien dans ces cas-là, je pense que des personnes comme Jean Messia où Stella ne verrait pas d'inconvénient à rester en France.
Stella ?
En effet. Alors, je suis d'accord avec elle sur ce sujet-là. Et quand on parle effectivement à chaque fois de l'immigration, il ne faut pas se mentir, c'est un sujet que les gens évitent ou esquivent d'en parler. Ils veulent pas vraiment rentrer dans le vif du sujet. L'immigration, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que la personne, en fait, qui part de chez elle et qui arrive là. Il y a aussi les décisions gouvernementales. Effectivement, quand Gérard Darmanin prend la décision de dissoudre Génération Identitaire et qui préfère appeler au discours à la haine, plutôt que de véritablement régler la situation comme il se doit. J'ai envie de parler d'un témoignage que j'ai reçu récemment, c'est-à-dire quelqu'un qui venait d'arriver en France et qui m'expliquait, oui, qu'il y a 20 ans d'ici, avant, un immigré, qui, quand il marchait dans la rue, qu'il voyait la police, il se cachait. Il faisait attention. Parce que s'il n'était pas en règle, il était susceptible d'être contrôlé et d'être renvoyé dans son pays. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. Les immigrés qui ne sont pas en règle, malheureusement, certains, pas tous, parce que c'est important de ne pas faire d'amalgame, quand ils voient la police, aujourd'hui, ils sont plus dans une défiance de la police qu'autre chose. Encore une fois, moi, mon appel, ce n'est pas tant de chercher à dissoudre Génération Identitaire. C'est plus un appel vers justement ceux qui sont immigrés, quoi qu'on dise. C'est-à-dire, c'est eux qui doivent se tenir, c'est eux qui doivent faire attention. Et je pense que s'ils se comportaient bien et qu'il n'y avait pas toutes ces élections, exactement, je pense qu'il n'y aurait pas de génération identitaire, tout simplement.
Eh bien, on va continuer d'en parler sur Sud Radio jusqu'à 14h en direct avec vous, Stella Kamga, et vous, Thaïs Descuffon. On se retrouve dans un petit instant, ne bougez pas, on revient.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h, bientôt passé de 30 minutes, toujours en direct sur Sud Radio dans Les Incorrectibles pour une émission spéciale avec ce thème, ou plutôt cette question, génération identitaire, une dissolution contestable, point d'interrogation. Voilà la question que l'on pose à nos deux invités aujourd'hui. Alors tout d'abord, Thaïs Descuffon, vous êtes porte-parole de génération identitaire, donc on devine bien évidemment votre réponse à cette question. Et puis vous, Stella Kamga, où c'est un petit peu plus, on va dire, nuancé, parce que vous reconnaissez quand même des points de divergence avec Thaïs Descuffon, mais vous êtes contre cette dissolution, c'est ça ?
Exactement, je tiens vraiment à
le
maintenir.
Et là, vous ne pensez pas que vous pouvez aussi, excusez-moi, Stella, choquer des gens qui ont le même parcours que vous et qui se sentent en danger quand ils entendent ou qu'ils voient, ou en tout cas qu'ils écoutent dans les médias, le portrait qui est fait de cette association ? À tort, je ne sais pas.
Ah, justement, de deux choses l'une.
Parce que si le ministre de l'Intérieur décide de la dissolution quand même d'un mouvement, c'est que théoriquement, il a des billes pour le faire.
Mais c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur décide un X ou un Y que ça veut dire qu'il a forcément raison. Il reste un humain qui a des erreurs.
Mais
oui, si effectivement il faut dissoudre, soi-disant, toutes les associations qui portent un discours de haine, je peux vous citer un bon nombre d'associations qui continuent d'œuvrer et le ministre de l'Intérieur n'a pas l'air de s'en occuper. Donc c'est trop facile de venir dire on va dissoudre génération identitaire. Beaucoup de personnes m'ont dit que forcément je serais d'accord ou alors pro-génération identitaire. Encore une fois, je tiens à le dire. Ce n'est pas parce qu'on n'apprécie pas toutes les idées d'une personne.
Alors pourquoi vous n'êtes pas justement d'accord avec génération identitaire?
C'est pas compliqué. Génération identitaire est nationaliste. Il prône une idée de la France.
Identitaire, oui.
Voilà. Donc, quand je parle de nationaliste identitaire, c'est la France purement souche, c'est bien ça. France, identité.
Mais vous êtes pour une France blanche ou pas ?
Non, nous défendons une Europe européenne et une France française.
Mais il y a beaucoup de gens qui vous reprochent un suprémacisme.
Exactement,
blanc.
Parce que ça reste un élément de langage, en fait.
Non, c'est faux.
Vous le contestez, clairement.
Oui, bien sûr. Néanmoins, l'identité, c'est une langue, c'est une culture, ce sont des valeurs.
C'est pas une couleur de peau.
Mais c'est également un peuple historique. Enfin, je veux dire, ce serait toujours la France si elle était peuplée d'un majorité d'immigrés ? Je ne pense pas.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire de gens issus de pays de couleur de peau qui ne soient pas blanches.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que
ça vous gênerait.
Est-ce que dans ces cas-là, l'identité française, c'est quand en France je me sens en France et je me sens pas en Namibie. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des personnes qui peuvent tout à fait comme
Stella.
Vous
savez qu'il existe des territoires d'outre-mer où les gens ne sont pas blancs.
Mais bien sûr. Mais là, on vous parle d'un cas français. Je vous parle de la France et de l'Europe.
C'est la France.
Le fait
aussi.
Est que. Oui, mais là, je vous parle du territoire français et européen qui appartient à tout ça, à la civilisation européenne. Je pense que c'est important que les Français restent majoritaires chez eux. Quand même, les Français sont maîtres chez eux. Chaque peuple a le droit, effectivement, d'être majoritaire chez lui, tout de même. Et moi, je pense que oui, c'est un danger quand vous avez Jean-Paul Gourevitch qui estime qu'en 2050, les musulmans pourraient être majoritaires en France, ou même Laurent Burton qui appuyait en disant qu'en 2050, les Français seraient minoritaires chez eux. Oui, là, dans ces cas-là, je suis désolée, l'identité est fortement menacée.
Mais c'est bien
massive.
Cette nuance que l'identité n'est pas liée à la couleur de la peau. C'est pour vous que j'essaye de vous permettre de faire cette mise au point qui est importante parce que beaucoup de gens considèrent que vous êtes pour une France blanche. Donc vous mettez bien les choses au point. Ça n'est pas lié à la couleur de la peau.
L'identité, c'est aussi un peuple historique. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais notamment du cas de Jean
Messia... Non mais sur cette question-là, excusez-moi, oui, Thaïs, mais je vais vous parler... fond d'être un peu insistant. La France, pour vous, ce n'est pas une question de couleur de peau ou ça l'est ?
Je vais pouvoir parler tout à l'heure du cas de Jean Messia. Jean Messia qui est, donc, comme je vous en ai parlé, d'origine égyptienne chrétien copte. Personne ne nie le fait qu'il soit français aujourd'hui. Et d'ailleurs, il était à notre manifestation de soutien à Génération Identitaire.
Bah oui, comme un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen, il n'est pas nécessairement blanc.
Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que parce que Jean Messia...
Faites de différence entre des Français blancs et des Français non blancs.
Et dans ces cas, est-ce qu'on peut dire que parce que Jean Messia fait partie effectivement de personnes tout à fait assimilées qui ont eu des parcours individuels d'assimilation, dans ces cas-là, sont une généralité, qu'il faut en faire une généralité. Moi, je ne crois pas à une politique d'assimilation. Je crois à des parcours individuels. individuelle d'assimilation. Et ce n'est pas parce que, voilà, moi je respecte tout à fait et j'apprécie Jean Messia. Néanmoins, je ne sais pas si l'identité française, ce serait que des personnes d'origine égyptienne, chrétienne, copte. Après, il se trouve que Jean Messia a très, tout à fait montré qu'il était français, qu'il était attaché à son pays. Et en cela, donc, il a tout à fait,
vous comprenez que la possibilité d'être en France. C'est bien ici qu'il y a un malaise, on sent qu'il y a un malaise dans votre réponse. Enfin, je ne sais pas, j'aimerais vous faire réagir, Stella.
C'est exactement...
vous avez du mal à me répondre, non, ce n'est pas une question de couleur de peau.
C'est exactement le point de divergence, en fait, qu'il y a entre génération identitaire et moi. Alors, moi, j'ai suivi les différents... interventions de Thaïs sur le plateau d'Hanouna qui présentait effectivement les chiffres du ministère de l'Intérieur par rapport à la délinquance, de l'immigration et tout. Et je sais très bien que Thaïs aime bien les chiffres donc en matière de preuves. Donc j'ai fait des recherches par rapport à l'INSEE. Actuellement, il y a 6,7 millions d'immigrés qui vivent en France, soit 9,9% de la population au total. Donc je ne pense pas que sur une population de 100%, 9,9% d'immigrés va remplacer les 80% qui va rester. Il y a encore quelque chose qui est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de rassemblement en matière, de remplacement de l'immigration. Bien évidemment, moi aussi, quand je venais d'arriver du Cameroun et que j'ai pris la ligne 13, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, si j'arrive en France et que je rencontre et que tu passes par l'INSEE, tu te demandes si effectivement tu es en France ou pas. Sauf que Paris, malheureusement, et ça, c'est un ami qui me l'a dit, Paris n'est pas la vitrine de la France. Paris n'est pas représentative de la population de la France. Il faut partir de Paris pour réaliser qu'en France, eh bien, effectivement, il y a des Français. Donc oui,
non, puisque je disais, les territoires d'outre-mer, c'est la France. Dire,
non, je ne parle même pas que des territoires d'outre-mer. Là, on reste... typiquement en France.
En métropole,
en matière,
dire.
Oui, non, en France, France, quoi, pas outre-mer, rien que, laissons l'outre-mer et on reste dans la France européenne, comme elle l'a dit. Il n'y a que 6,7 millions d'immigrés, 2,5 millions qui sont légales en France, qui ont la nationalité française.
Oui, mais et vous donc... parlez d'immigration, mais là, encore une fois, ça, c'est pas lié à la couleur de la peau, non, là. On n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, d'ailleurs.
Là, ce sont les chiffres de l'INSEE. Pour rassurer Thaïs, dans le sens de, quand je l'ai bien noté, elle a bien parlé d'identité, de culture et de langue et d'histoire. Donc, moi, par exemple, je suis, s'il faut s'arrêter à la langue et à l'histoire, quelque part, je peux te dire que je suis française, pour la simple raison que je pense que je m'exprime assez très bien en français. Et en matière d'histoire, on a une histoire, nous, le Cameroun, on a une histoire qu'on partage d'une certaine manière avec la France. Et je ne peux...
L'Afrique francophone, c'est
exactement,
quelque
chose. La France francophone, donc la francophonie. Donc, je comprends, encore une fois, les positions de Thaïs, et je peux comprendre certains qui peuvent dire qu'ils ont peur de supposer, moi, parce que autant je crois en beaucoup de choses et je défends les points, notamment sur l'immigration.
Non, parce que c'est ça, excusez-moi,
mais je ne crois
pas du tout. C'est ça tout le fondement. Ce qui est défini, l'identité, c'est quoi pour vous, Thaïs?
Exactement. Pour revenir juste au fait que vous me citiez, ou tu me citais des chiffres, pardon. Je ne sais pas si cela compte déjà tous les immigrés qui pouvaient déjà être présents en France et qui avaient acquis la nationalité française.
Les chiffres datent de 2019.
Mais il se trouve qu'en 2019 également, on a compté le ministère de l'Intérieur a compté 400 000 entrées en France, ce qui équivaut. 400 000 personnes, c'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. Nice, c'est la cinquième ville de France. Oui. Vous prenez ça sur un quinquennat, c'est sur 5 ans, c'est-à-dire vous multipliez ce chiffre par 5, et ça équivaut à 2 millions de personnes qui rentrent en France tous les 5 ans. Et 2 millions de personnes, c'est la capitale de Paris. C'est l'équivalent de la capitale de Paris. Donc comment, je ne vois difficilement comment on peut nier une invasion migratoire avec des chiffres pareils.
Donc ça reste encore du domaine de, comment dire, des chiffres, des statistiques. Effectivement, s'il y a une entrée 400 000 en moyenne une année en 2019, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a le même chiffre d'année par exemple, en 2015 ou en 2016. Selon les mêmes chiffres de l'INSEE, en 2016, en France, il y a eu un pic, effectivement, d'immigration, mais le pic a baissé en 2017, à mon arrivée, et le pic était encore plus bas l'année qui précédait, en 2015. Donc oui, il peut y avoir des pics d'immigration, c'est-à-dire 400 000 entrées une année, mais ça ne veut pas dire que toutes les années, il y a 400 000 personnes, par exemple, qui rentrent en France. Et effectivement, il faut aussi prendre en compte...
En tout cas, depuis plusieurs années, ça n'a fait qu'augmenter tous les ans, hein,
non,
pour le coup. Les chiffres disaient plutôt
malheureusement, les chiffres de l'INSEE disent au contraire. Ça n'a pas augmenté toutes les années. Les chiffres de 2016 sont effectivement élevés. Les chiffres de 2017 sont bas. Les chiffres de 2018 sont bas par rapport à 2016. 2016, c'est un pic très élevé, tandis que les autres années restent considérablement bas.
En tout cas, il y a une une immigration massive qui pose des problèmes, et on allait d'ailleurs en parler vis-à-vis de la ville de Trappes. Et je pense que l'invasion migratoire, bon, c'est un fait. Je pense que il y a des chiffres qui le prouvent.
En effet.
Et donc oui, c'est un problème de penser que les Français pourraient être minoritaires sur leur propre sol.
Mais
donc,
pas en 2050, comme le disait l'auteur qui a dit qu'en 2050.
Jean-Paul Gourevitch et Laurent Burton.
Non, si on est en 2021, il y a quelques années d'ici, on était en 2020. On était en 2000. Aujourd'hui, on est en 2021. Donc, en gros, on a quoi? 21 ans qui sont passés. Et jusqu'ici, on n'a pas dit, par exemple, que la population immigratoire est passée de quoi? 1% à 9% ou de 9% à 50%. Donc, 20 ans, ça passe assez rapidement. Et je ne pense pas qu'en 2050, 9% vont se transformer en 79%. Et donc, on remplacerait 66 millions de Français.
Non, le fait est que le taux de natalité français est en baisse considérable, et européen en général. Et pour le coup, la population immigrée, elle, est plutôt à avoir un taux de natalité très fort. Donc, par logiquement, alors vous, ok, peut-être pas en 2050. Moi, je vous ai cité des chercheurs, enfin des chercheurs et des auteurs qui se sont penchés sur la question et qui ont estimé à 2050. Ok, peut-être 2070. Qu'est-ce que ça change? Le fait c'est qu'il y a une invasion migratoire et que si elle continue d'évoluer dans ce sens, les Français seront un jour minoritaires chez eux.
Vous croyez à la stratégie du grand remplacement?
Oui, tout à fait. Le remplacement de population, c'est d'ailleurs, ce n'est pas une stratégie, c'est un fait. C'est un fait géopolitique de migration de peuples qui, effectivement, on voit de plus en plus d'arriver en France via l'immigration clandestine, mais aussi via l'immigration légale. Et effectivement, ça pose tout un tas de problèmes. Une dette économique qui ne fait qu'augmenter, parce qu'on sait aujourd'hui que l'immigration qui vient en France, c'est quand même surtout pour des raisons économiques, à cause de systèmes sociaux, du système social généreux qu'a la France pour bénéficier de l'AME, tout un tas d'autres aides sociales. Et donc, il y a un appel d'air qui ne s'arrête pas, une démographie en Afrique qui augmente toujours plus, et nous, une natalité qui baisse. Donc là, pour le coup, je ne pense pas qu'il faille être je pense pas qu'il faille être un grand chercheur pour comprendre qu'effectivement, il y a une logique de remplacement de population.
Oui, non, remplacement de population, je ne dirais pas ça. Moi, je note une chose. On parle effectivement de la natalité française qui a baissé. Faut pas confondre, la natalité française qui a baissé n'a rien à voir avec la population. En gros, si les Français décident de s'accoupler ou pas, ou de faire des enfants, ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, il y a des immigrés qui rentrent et décident de faire des enfants. Je pense que ça n'a absolument rien à voir.
Non, je n'ai pas dit que c'était parce que il y avait des immigrés que les Français faisaient moins d'enfants. Je dis juste qu'en général en Europe, le taux de natalité baisse, et en comparant avec le taux de natalité de population d'origine immigrée, pour le coup, il est bien plus haut. Enfin, je veux dire, en France, il me semble que c'est 1,7 enfants par femme. Dans les pays comme, il me semble, le Kenya, c'est 5 enfants par femme. Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a des populations qui ont des taux de natalité plus hauts ou pas. Je ne dis pas que c'est parce que c'est
en effet
intimement lié, mais c'est
un fait. Pour compléter ce que pour finir mon propos, le fait aujourd'hui est qu'effectivement la femme française est éduquée. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont choisi
Excusez-moi de vous interrompre, mais justement, vous devriez être contente aussi, puisque vous parlez aussi de l'image de la France dans le monde, et justement, si le taux de natalité est en baisse et que ça participe à ce qu'il y ait plus de Français, bah, ça donne plus d'écho à la voix française dans le monde.
Mais la France, c'est l'identité française, c'est un tout.
C'est ça, j'aimerais vous demander exactement, c'est quoi pour vous l'identité française? C'est une question de couleur de peau, encore une fois, vous ne répondez pas à cette question.
L'identité française, je vous ai dit, c'est un tout. Ça fait aussi partie, il y a aussi un peuple historique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Après, je ne nie pas le fait qu'il puisse avoir des personnes qui ont une
différence entre une immigration africaine et une immigration, d'Europe de l'Est.
Je ne pense pas que la réponse à l'immigration massive, ce soit l'assimilation massive. En réalité, je pense que on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. À partir d'un moment,
c'est pas les peuples qui immigrent non plus.
Mais je pense que les chiffres montrent quand même qu'il y a une très forte, un très grand nombre de d'immigrés qui viennent toujours plus en France et en Europe. Et donc, je veux dire, mais dans des villes comme Trappes ou d'autres, ou dans des cités où vous avez 80% de la population qui est immigrée, je ne parle pas de Trappes en l'occurrence, mais voilà, il y a des banlieues ou des cités où ça peut être le cas. À votre avis, est-ce qu'ils vont s'assimiler à la France? C'est la France qui va devoir s'assimiler à eux. À partir du moment où il y a même des zones où effectivement ils sont en extrême majorité, et il ne faut pas s'imaginer que ça ne va rester que
des zones de non-droit, c'est ça, ou de non-France même, comme le disent certaines personnes.
Mais Eric, c'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le fait que encore, quand quelqu'un part de chez lui pour justement immigrer sur une terre étrangère, c'est bien que quelque part, il y a quelque chose qui le chasse de chez lui. Et donc, qu'est-ce qui le chasse généralement? C'est les conditions, c'est la guerre parfois, c'est la famine, c'est la précarité sociale, c'est l'asile. Alors, vous ne pouvez pas nier quelque part que les décisions que les gouvernements successifs qui sont arrivés en France sont aussi responsables de ce qui arrive, malheureusement, que les Français subissent aussi. Je prends un exemple simple.
Mais attendez, excusez-moi, oui, juste, l'immigration, vous ne pouvez pas considérer que ça peut être aussi une richesse parfois, Thaïs Descuffon, pour la France?
Moi, ce que je vois en l'occurrence, c'est qu'il y a une forte... Enfin, que cette immigration, ce n'est pas... Je suis désolée, il y a quelques individus qui... peuvent voilà, s'assimiler et apporter quelque chose.
Mais
en termes de masse, on voit bien qu'elles posent davantage de problèmes. Il n'y a qu'à voir toutes les statistiques en concernant la criminalité, que ce soit dans les prisons. Il n'y a qu'à aller dans les prisons pour voir qu'il y a une forte proportion de personnes d'origine immigrée dans ces prisons. Que même j'avais cité sur...
Pourtant, il n'y a pas de statistiques ethniques.
Il n'y a pas de statistiques ethniques, mais il y a des statistiques de nationalité. Et d'ailleurs, en l'occurrence pour les prisons, ce n'était pas des statistiques de nationalité, même c'était par rapport à la religion. Il y avait beaucoup de personnes, il me semble que c'était 70% dans les prisons qui étaient musulmans. Selon le service statistique ministériel de l'Intérieur, en 2019, dans les transports en commun en Île-de-France, c'était 63% pardon, des agressions sexuelles qui étaient commises par des étrangers et 93% des vols également dans les transports en commun. Donc là, pour le coup, c'est les chiffres de l'Intérieur hein, eux-mêmes. Et qu'il existe un lien entre immigration et délinquance, c'est évident et ça, on ne peut pas nier, même les chiffres le disent. Alors même si Gérald Darmanin criminalise notre discours et nous reproche de faire ce lien-là, je suis désolée, mais même ses propres chiffres nous donnent raison.
Thaïs Descuffon, Stella Kamga, vous êtes avec nous jusqu'à 14h en direct dans Les Incorrectibles pour une spéciale génération identitaire, une dissolution contestable, point d'interrogation, c'est la question qu'on pose. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, restez avec nous, on revient dans un instant.
Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo.
13h passé de 45 minutes, nous sommes toujours ensemble en direct sur Sud Radio pour un débat vif mais courtois entre deux invités très attendus, notamment vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à commenter cette émission. Thaïs Descuffon, vous êtes porte-parole de Génération Identitaire, menace et dissolution, c'est une question de quelques jours avant que Gérald Darmanin ne prenne sa décision, je crois que c'est mercredi, hein, vous l'aviez dit, bon après il y aura des voies de recours, Gilles William Golnadel est votre avocat, on lui fait confiance pour plaider votre cause. Avec nous, Stella Kamga, vous êtes également, évidemment, connue de Sud Radio, puisque vous intervenez régulièrement sur cette antenne. Et donc, je le disais, certains points, étonnamment d'accord entre vous, mais beaucoup aussi de désaccords. En tout cas, il est clair que Génération Identitaire dénonce ceux qui placent leur religion au-dessus des lois de la République. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de placer vos convictions politiques au-dessus de ces mêmes lois, Thaïs Descuffon?
Nous, lorsque nous nous sommes rendus au col du Portillon, ce que nous avons demandé, c'est que le droit, en fait, il soit appliqué à l'égard des migrants clandestins qui franchissent illégalement une frontière. Donc, en fait, c'est assez curieux de voir que Gérald Darmanin veut dissoudre Génération Identitaire qui ne fait que demander que la loi soit appliquée, en fait. Parce qu'aux dernières nouvelles, il est illégal de franchir une frontière à pied sans papier.
Et sur l'identité française, on le disait, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, j'ai du mal à vous faire définir ce qui est pour vous l'identité française. Qu'est-ce que c'est pour vous l'identité française?
Concrètement, l'identité française... Donc c'est une langue, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un peuple historique. Mais c'est vrai qu'en fait, je pensais notamment à une... vous savez, on cite souvent le général de Gaulle comme une figure, en tout cas beaucoup de politiques français s'en réclament, mais il faut quand même savoir que même...
C'est vrai qu'il s'est exprimé là-dessus. Ouais,
tout à fait,
souvenir, ouais.
Et même cette, donc, le général de Gaulle qui est pour le coup quand même une figure de notre histoire également, et donc dont beaucoup de politiques se réclament, avait été également le premier à dire que...
Vous êtes gaulliste alors?
J'allais simplement citer une chose qu'il a dit et avec lequel je suis plutôt d'accord, mais il disait que il ne faut pas se payer de mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Et donc ça, ce n'est pas de moi, hein, c'est du général de Gaulle. Donc
c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est vrai que ces propos-là. Gérald Darmanin devrait les remettre en cause ou dissoudre le gaullisme, si on les prend au pied de la lettre, puisqu'il parle de race blanche.
Et donc, est-ce qu'il faut dissoudre des partis qui se réclament comme gaullistes? Donc, oui, c'est qu'on voit qu'en fait, ce n'est pas seulement une question de discours, c'est également que, voilà, il veut criminaliser le discours anti-immigration, en fait.
Stella ?
Oui, alors moi, honnêtement, je tiens encore...
Ça vous choque les propos du général de Gaulle à la lecture en 2021 ?
Mais non, pas du tout. En tout cas, moi, je n'aurais pas la prétention de venir dans le pays de Thaïs, lui dire comment elle doit se comporter et lui dire si elle devrait s'excuser ou pas d'être blanche. C'est une connerie qui n'a même pas de sens, en réalité. Moi, tout ce que j'essaie de faire comprendre, enfin, mon point de vue est que je suis universaliste. De base. Pour moi, un Français, et après je pense que c'est là où Thaïs et moi ne serait pas d'accord, je pense que pour moi un Français c'est quelqu'un qui défendrait ce pays si jamais il y a un véritable problème. C'est quelqu'un qui n'apprécierait pas effectivement de voir le pays tomber en décrépitude, et je suis la première personne qui justement n'accepte pas et ne cautionne pas le fait qu'il y ait une immigration justement qui, au lieu d'être... comment dire, bénéfique à ce pays, en réalité, le traîne plus vers le bas que vers le haut. Je suis contre le fait, par exemple, que les immigrés, de façon générale, parce que, on va pas se mentir, je parle pas de moi, de mon cas, comme vous l'avez dit, il y a des cas qui sont différents de moi, on n'est pas tous pareils, on va pas se mentir, mais il y a certains qui débarquent ici et qui se croient directement arrivés en Corse. Et oui, on va profiter des aides. Pour moi, c'est clair. Il faut régulariser l'immigration. Il faut faire attention. Il faut trier sur le tas. Et surtout, ne pas distribuer les aides comme des petits pains. Je pense que, à partir de là, il y aura quand même un certain ordre qui sera établi. Et les gens vont beaucoup... Moi, je suis pour l'ordre, en réalité. Mon problème, c'est l'ordre. Mon problème, c'est, comment dire, respecter l'environnement dans lequel on évolue. Et tant que ce n'est pas fait, ben, il y aura toujours un problème. Et c'est pour ça que l'immigration... L'immigration, pour moi, le véritable problème, c'est la gestion de l'immigration. Et ça, on le doit à Darmanin, on le doit à ce gouvernement.
Un petit mot sur ce qui s'est passé à Pau. Hein, je rappelle, c'était vendredi, à savoir l'agression au couteau qui a entraîné la mort du chef du pôle asile du centre d'accueil, Isar COS, un homme de 46 ans, père de deux enfants, professionnel aguerri, estimé. Le meurtrier a reconnu les faits. Il s'agit d'un homme de nationalité soudanaise, âgé de 38 ans.
Oui, c'est extrêmement dommage de voir les choses comme ça. À chaque personne, et je sais même pas normalement il y avait une loi qui avait été votée pour ça et qui devait être mise en application. Un immigré,
il devait être expulsé. Hein.
Oui, un immigré qui commet des forfaits pareils sur le territoire français doit être renvoyé chez lui. Normalement, il devait même pas avoir un débat là-dessus. Ça devait être clair comme l'eau de roche. Je ne sais pas pourquoi on est en train de tergiverser sur des choses comme ça.
Moi, j'ai envie de dire une chose. Au-delà de cet événement dramatique. Hein. Donc voilà, c'était un responsable d'ailleurs d'un centre d'accueil pour migrants, donc c'est d'autant plus d'autant plus choquant effectivement. Et donc moi j'ai envie de dire en fait si jamais on avait entendu les appels et si on avait entendu les lanceurs d'alerte comme Génération Identitaire en fait qui dénonçons ce risque de effectivement qu'il y ait d'autres attentats ou même d'autres événements de ce type. Si jamais on avait écouté Génération Identitaire, peut-être que Cyril serait encore en vie. Et donc la priorité, je pense que ce n'est pas de dissoudre Génération Identitaire qui ne fait que en fait dire des vérités qui peut-être dérangent notre gouvernement, mais qui n'en reste pas moins la réalité. Mais plutôt de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes en fait qui égorgent les nôtres et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui traversent nos frontières illégalement. En l'occurrence, peut-être, je ne serais même pas surprise d'apprendre peut-être que ce migrant soudanais serait peut-être passé un jour par les Pyrénées. Et imaginez, ce serait quand même tout de même assez ironique qu'on aille dissoudre Génération Identitaire qui ne fait que dénoncer ce risque-là. Et donc, moi, je pense également, je pense quand même à une... Quand on dit que voilà, la justice, il faut savoir que la justice était censée avoir expulsé, le gouvernement était censé avoir expulsé ce migrant soudanais et la justice l'avait permis de rester. Et j'avais quand même une phrase de... Éric Dupond-Moretti en tête, qui est notre ministre de la Justice, et qui disait qu'il en avait assez d'entendre que la justice ne faisait pas son travail. Mais en fait, je suis désolée, mais le fait est que, en fait, si typiquement la justice avait fait son travail ici, ce migrant soudanais a été renvoyé chez lui et que.
Et c'est celui-là même qui dénonçait le sentiment d'insécurité.
C'est exactement. Ça, tout à fait.
Bon, on va arriver au terme de cette émission. Très rapidement, petit questionnaire, Stella Kamga, quelle est votre perception de Génération Identitaire ? Est-ce que vous qualifierez ce mouvement de fasciste ?
Non.
Oui ou non ?
Non, je ne...
D'extrémiste ?
Non plus.
De raciste ?
Non.
De patriote ?
Oui.
Bon, question à toutes les deux. Quelle distinction vous faites entre nationalisme et patriotisme ?
Pour moi, il n'y a pas de distinction. Un nationaliste est patriotiste. Mais un patriotiste n'est pas forcément... un patriotiste peut être universaliste, c'est ça.
C'était Thaïs, pardon.
Disons que je vois une certaine distinction parce que...
Vous voulez la faire tout à l'heure.
Hein. Oui, tout à fait, parce que le nationalisme serait également de réduire peut-être la France à ses frontières. Nous, on a vraiment voulu sortir de ce clivage-là, en fait, et imposer le terme d'identitaire, qui était de considérer qu'au-delà, ce qu'on avait, l'échelle se distinguait sur trois plans, c'est-à-dire que vous avez l'identité locale, votre identité de clocher, votre région, là d'où vous venez, l'identité nationale, donc le fait que nous soyons français ou allemands ou que sais-je, et l'identité européenne, qui est l'identité de civilisation, en fait. Et donc, nous, vraiment, on a voulu sortir de ces thèmes-là et imposer celui d'identitaire, de considérer qu'au-dessus de la France, il y a la civilisation.
Il y a un terme dont on parle beaucoup. Est-ce que vous considérez, Thaïs Descuffon, que le gouvernement est islamo-gauchiste ? Si je prends vos mots...
En tout cas, qu'il y ait une forte proportion de politique aujourd'hui qui le soit, ça ne fait aucun doute. De la déterminer qui ou qui ne l'est pas, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème vis-à-vis de cet islamo-gauchisme et de cet électoralisme de nombreux politiques qui viennent inaugurer des mosquées bras dessus, avec ouais. des imams radicaux. Oui, ça pose un véritable problème. Oui, je pense notamment j'avais un nom en tête, mais en tout cas Estrosi, oui. Qui est typiquement pourtant il est chez les Républicains, mais là on peut quand même parler de électoralisme islamique.
D'accord, rien que ça. Pour terminer, vous êtes favorable à une immigration choisie, c'est ça, si on devait résumer ?
En tout cas, 78% des Français, selon le dernier sondage de l'IFOP, estimaient qu'ils préféraient une immigration choisie à une immigration subie. Donc oui. Ça révèle bien effectivement que la majorité des Français en a assez d'une invasion migratoire qui lui est imposée, dont ils n'ont pas leur mot à dire, et qui emmène beaucoup de délinquance avec elle, d'insécurité, et les Français sont très inquiets de ça.
Stella Kamgar, on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pensez qu'en censurant Génération Identitaire de la sorte et en voulant dissoudre le mouvement, on risque peut-être pas finalement de les renforcer en les posant en martyrs ?
Bah oui, exactement. À chaque fois qu'on va essayer de le faire taire, il y a des groupes de Génération Identitaire, elle parle d'identité européenne, il y aura des groupes de Génération Identitaire qui vont naître en Belgique, en Allemagne, en Suisse, et ainsi de suite, et leur idée va plus prendre l'ampleur. Donc, je ne suis pas pour le fait qu'il faut museler Génération Identitaire ou qu'il faut dissoudre leur groupe. Il y a beaucoup de jeunes, de noirs, d'arabes, je peux vous montrer des messages que j'ai reçus, qui sont patriotes, qui aiment ce pays et qui défendraient ce pays au même titre que Génération Identitaire. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on doit les dissoudre. Tout est une question de débat, comme ce qu'on a fait cet après-midi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toutes les deux, Stella Kamga et Thaïs Descuffon, d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Donc pour ce débat sensible sur Sud Radio, donc réponse mercredi, hein, puisque c'est mercredi, vous l'avez dit que Gérald Darmanin dira ou non si ce mouvement doit être dissous. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes nos émissions sont disponibles, je le rappelle, en replay vidéo sur la chaîne YouTube dans quelques instants, chaîne YouTube de Sud Radio, depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. Merci, très bonne semaine à tous.